7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
En cette journée internationale des droits des femmes, gros plan ce soir Michael sur l'Argentine, le pays d'origine de l'appel mondial à la grève des femmes.
Et oui, personne ne le dit, mais c'est effectivement le collectif argentin Ni Una Menos, Ni Une de Moins, qui est à l'origine de cet appel donc à une grève internationale des femmes, où qu'elles soient, en entreprise, à la maison, dans un cabinet médical ou une salle de classe, toutes les femmes du monde sont invités à cesser le travail en signe d'insoumission collective. Voilà les propres mots de ce collectif Ni Una Menos. Bonsoir Caroline Vic, en direct de Buenos Aires.
Bonsoir.
Alors ce collectif existait à peine il y a 2 ans et aujourd'hui le mouvement qu'il a initié est donc suivi par plus de 50 pays dans le monde. Comment expliquer un tel phénomène, Caroline?
Alors c'est vrai, Ni Una Menos a réussi à mobiliser des femmes sur tous les continents, alors qu'en effet, ce collectif est né en 2015 seulement, organisant au début des marathons de lecture à Buenos Aires, mais sa force a été sans aucun doute l'insertion d'un message simple sur les réseaux sociaux. Pas une de moins, Ni Una Menos, plus une seule victime de féminicide. Et plus les médias relataient de nouveaux faits divers, plus les réseaux sociaux s'agitaient et plus les femmes sentaient le besoin de s'unir. Martha Dishon, journaliste, écrivaine et membre de Ni Una Menos.
Au début, on a mis en place une consigne dans la rue qui était suffisamment vaste pour intégrer un maximum de personnes. Ensuite, des sentiments plus féministes se sont développés, mais c'est vrai que ça a généré un débordement de volonté des femmes à débattre de ces sujets, d'analyser leur situation professionnelle et personnelle avec les tâches ménagères. C'est une fierté, bien sûr, mais surtout une joie de sentir que notre discours peut influencer l'expérience d'autres personnes et que ce discours soit adapté, modifié selon les conjonctures, les réalités et les territoires de chacun. C'est un grand moment pour être féministe.
Voilà, un grand moment pour être féministe, dit-elle. Et au-delà, Caroline, il y a une réelle volonté aussi des Argentines à faire appliquer leurs droits et à en conquérir de nouveau.
Oui, cette volonté, cette détermination viennent d'abord d'un constat tragique et consternant d'une situation critique en termes de violence contre les femmes. L'année dernière en Argentine, un pays encore culturellement très machiste, une femme est morte toutes les 30 heures sous les coups d'un homme. Et cette année, c'est pire. Depuis janvier, les organismes de droits des femmes comptent un féminicide toutes les 20 heures. Alors la violence physique s'ajoute aux autres types de violences, verbales, symboliques, avec des femmes représentées dans les médias ou chosifiées ou stéréotypées, ou encore la violence économique, avec par exemple un salaire 27% moins élevé qu'un homme pour un poste similaire. Alors deuxième raison également de la force des Argentines, l'héritage de la dictature militaire. Martha Dishon de Ni Una Menos.
Il ne faut pas oublier que l'Argentine a créé les mères de la place de Mai comme expérience et comme forme de lutte. Les femmes ici ont été protagonistes de toutes les luttes. La politisation du lien maternel, comme l'ont fait les mères de la place de Mai, est donc tout à fait argentin et a eu un impact dans le monde entier. Donc on suit un peu leur pas.
Et si le mouvement prend de l'ampleur, c'est aussi grâce à des facteurs économiques et sociaux, et puis à une multiplication des droits ces dernières années.
Oui, c'est en effet l'analyse que fait Laura Belli, professeure de philosophie et membre de l'association Économie Féministe.
Pourquoi la grève est partie d'Argentine? Pour deux raisons. D'abord parce que nous, les femmes, nous avons décidé de nous unir et de nous faire entendre. Et puis parce que la situation n'a pas vraiment changé. Malgré les améliorations qu'il y a eu ces dernières décennies, il y a eu de nombreuses lois progressistes, la loi du mariage homosexuel, la loi d'identité des genres, ainsi que des avancées en termes de croissance économique et sociale. Mais on continue à être violentées, agressées et méprisées.
La conscientisation ne cesse de gagner du terrain, mais en réponse, elle ne trouve pour le moment que d'autres coups avec la recrudescence des féminicides ou des portes fermées, des commissariats, des tribunaux ou même du palais du gouvernement. Mais les Argentines sont bien décidées à lutter en vue d'un monde plus égalitaire et même peut-être, comme elles le disent, d'une nouvelle révolution latino-américaine.
Merci beaucoup Caroline Vic en direct de Buenos Aires.
et Journée internationale des droits des femmes, Michael, toujours avec deux autres initiatives. La première au Brésil.
Oui, à Rio, où l'aéroport international a changé de nom depuis ce matin. Et pour 10 jours, jusqu'au 18 mars, Antonio Carlos Jobim, l'icône bien sûr de la bossa nova, cède sa place à Maria da Penha Fernandez, un véritable symbole au Brésil. Cette pharmacienne a en effet survécu aux brutalités infligées par son mari durant des années, échappant notamment à la mort par arme à feu et même par électrocution. Devenue paraplégique, elle a finalement obtenu la condamnation de son conjoint à 8 ans de prison avant de donner son propre nom en 2006 à une loi qui prévoit aujourd'hui des peines beaucoup plus dures contre les auteurs de violences domestiques. Le Brésil, qui reste aujourd'hui encore l'un des pays les plus violents au monde, est particulièrement touché par la violence contre les femmes. 4757 femmes assassinées en 2015, soit 13 femmes tuées chaque jour, sans compter évidemment les seules agressions sexuelles. La police de Rio a ainsi révélé la semaine dernière qu'une femme avait été victime d'agression toutes les 4 minutes pendant le carnaval. Et de Rio à Ottawa, Nicolas, au Canada, où l'initiative de Sophie Grégoire Trudeau n'a pas eu aujourd'hui l'effet sans doute escompté. L'épouse du Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a en effet appelé à associer les hommes à cette journée de la femme. Profitons-en pour célébrer les garçons et les hommes qui nous encouragent à être qui nous sommes vraiment, qui traitent les filles et les femmes avec respect, a-t-elle écrit sur son compte Instagram, avec une photo d'elle et de Justin, main dans la main, regard amoureux. Eh bien, cascade de réactions indignées sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas le jour. Célébrons le féminisme, pas le couple. Ou encore, Madame Trudeau, occupez-vous plutôt des violences faites aux femmes ou des mariages forcés. Et ce tweet d'une députée conservatrice, ancienne ministre, Michel Rampel. Moi, je n'ai jamais eu besoin que l'on me tienne la main.
Et en Russie aussi, Michael, on célèbre cette journée du 8 mars.
Et même plus qu'ailleurs, car en Russie, ce jour de la femme est férié. Et les Russes sont d'ailleurs précurseurs, puisque c'est en 1921, s'il vous plaît, que Lénine avait institué cette journée de la femme. Mais petit problème cette année, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en 2017. Bonsoir Caroline Carlson-Larson, en direct de Moscou.
Bonsoir Michael.
Alors, 2017, évidemment, 8 mars, et une résonance très particulière en Russie.
Et oui, Michael, puisqu'il y a 100 ans, jour pour jour, se jouait le premier épisode d'un soulèvement populaire qui allait aboutir à la révolution d'octobre et à la prise de pouvoir par les bolcheviks. Un anniversaire relativement occulté, du moins officiellement, rien n'a été décidé pour commémorer cet événement historique. Et pourquoi donc faudrait-il commémorer un événement aujourd'hui encore douloureux dans la mémoire collective ? Voilà somme toute un non-anniversaire, nous dit Lev Fourier, historien russe et spécialiste de l'histoire de Saint-Pétersbourg, où se jouait le 8 mars 1917 le premier acte de la Révolution.
Je ne pense pas que de nos jours, en Russie, cela ait vraiment du sens de se remémorer la Révolution de 1917. La situation actuelle du pays est assez éloignée de cela. Et 1917 est quelque chose que les gens n'ont pas envie de se rappeler. C'est très douloureux.
Alors, 100 ans après, le travail de mémoire reste éclipsé par un relatif silence en Russie, y compris chez les jeunes Russes, pour qui la révolution reste la grande tragédie du siècle dernier. Ksenia est née en décembre 91, à la chute de l'URSS donc. Elle n'a pas envie de se rappeler 1917.
Je pense que ce qui est arrivé cette année-là est très négatif. Cet événement nous est tombé dessus il y a 100 ans, et à cause de cela, nous n'avons pas pu développer notre pays autant qu'il aurait dû l'être. Parce que l'arrivée des bolcheviks signifie la répression de tous les intellectuels, les scientifiques, de tous les gens qui avaient une certaine imagination et de l'esprit. Soit on les a tués, soit on les a déportés loin. Et maintenant, notre société souffre d'un manque d'ordre intellectuel. Voilà la conséquence catastrophique de ce qui est arrivé il y a 100 ans.
Et à première vue, hein, Caroline, l'État russe de 2017 n'a pas non plus franchement envie de se souvenir.
C'est vrai, et surtout encore moins envie de raviver dans l'esprit de ses concitoyens des problématiques liées à un soulèvement populaire. Parler révolution, quand la politique russe actuelle est de les condamner et de pointer plutôt le rôle joué dans ces révolutions par les Occidentaux, à l'œuvre dans les anciennes provinces soviétiques justement. En fait, ce centenaire de la révolution russe, le gouvernement ne s'en désintéresse pas complètement. Une commission spécialement dédiée a même été créée l'année dernière pour être à la manœuvre en 2017. commission qui réunit des membres pour le moins conservateurs, un milieu des valeurs portées par la révolution bolchevique 100 ans plus tôt. Alexander Bikboff s'intéresse à la question. Il est sociologue et directeur adjoint du Centre de philosophie contemporaine et des sciences sociales de l'Université d'État de Moscou.
On peut voir bien que ce sont plutôt les héritiers de la tradition opposée à les révolutions qui cherchent à réapproprier les révolutions. Et alors, de ce point de vue, c'est extrêmement intéressant ce qu'il propose, parce qu'il ne cherche pas tout simplement à contredire le sens de la révolution. Ils ne disent pas que c'était une catastrophe, un événement bestial, ou etc., ce qui était le discours dominant il y a 10 ans de la part de ce camp politique. C'est surtout qu'il faut redéfinir les révolutions dans un contexte plus large, c'est-à-dire ne plus mettre l'accent sur les révolutions d'octobre, qui étaient les révolutions bolcheviques, mais plutôt le regarder ensemble avec la Première Guerre mondiale, le conflit européen plus large, y compris la société malade, les tensions politiques qui existaient déjà sur place. Et ensuite, justement, à travers ces tensions, à travers cette vision élargie de l'histoire, arriver à la conclusion que les révolutions doivent être inscrites dans la liste des grands achèvements de l'État russe et de la nation, comme d'ailleurs la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale, par exemple.
Et pour finir, Caroline, un mot tout de même de l'Église orthodoxe russe, qui elle aussi est un peu embarrassée.
Oui, pour elle, ce rendez-vous historique est encore plus délicat peut-être à commémorer. Elle organisera une messe en hommage à toutes les victimes de la Révolution d'octobre. Cette église redevenue depuis une dizaine d'années seulement un pilier de la société russe contemporaine après des décennies d'interdiction par le régime soviétique. Sa grande messe, bizarrement, inclura aussi les victimes de la Première Guerre mondiale, ce qui va dans le sens de l'élargissement historique et permet ainsi de ne pas isoler ni de trop mettre en avant la révolution de 1917, une révolution certes constitutive de la Russie actuelle, au même titre que les deux dernières guerres, mais sans doute un peu moins.
Caroline Larsson, correspondante d'Inter à Moscou, merci. Et l'on reste en Russie pour une toute dernière info, Nicolas. Russie où, si vous avez moins de 16 ans, vous n'entendrez pas ça.
Желаешь занять место отца?
Выйди на свет!
Дисней представляет «Красавица и чудовище». Вы наш гость с 16 марта.
Voilà, extrait de la bande-annonce en russe du tout dernier Disney, La Belle et la Bête, qui sortira en Russie le 16 mars prochain, mais frappé d'une interdiction. Dessin animé interdit au moins de 16 ans à l'appel d'un député russe ultra-conservateur. La raison, le premier moment exclusivement gay, G-A-Y, dans l'histoire de Disney, comme le dit lui-même le réalisateur Bill Condon, une brève amourette homosexuelle que même les critiques américains les plus réactionnaires ont jugé insignifiante. Eh bien, pas en Russie. Il faut bannir un tel spectacle pour notre jeunesse, a déclaré l'équivalent russe du CSA. Rappelons qu'aujourd'hui en Russie, les rassemblements de soutien à la communauté homosexuelle sont systématiquement interdits. L'homosexualité y était considérée comme un crime jusqu'en 1993 et comme une maladie mentale jusqu'en 1999. À demain.
À demain, Michael.